Le réseau Cogeco vous présente Entre nous. Voici Sylvain Ménard.
En ces temps de pandémie, on se cherche des poignées sur lesquelles on peut s'accrocher solidement. Cette année, tout le monde a partagé la même doudou musicale. Et c'était la musique d'Alexandra Strelitzky. Bonjour, Alexandra.
Bonjour.
Un bel album, Inscape, et un album utile. Est-ce que tu as eu le sentiment que ton album tombait exactement au bon moment?
J'ai senti dès le début, bien avant la pandémie, là, ça fait 2 ans que Inscape est sorti, puis j'ai senti que le monde avait besoin de douceur, définitivement. Là, dans les témoignages que je reçois des gens. Et puis pendant la pandémie, ça s'est juste renforcé. Là, il y a eu un besoin collectif de calmer son anxiété qui était comme juste plus généralisé. Mm-hmm. Fait que oui, je reçois beaucoup de témoignages tout le temps. Des choses très touchantes, honnêtement.
Parce que Inscape a quelque chose d'unique en partant. C'est avec cet album-là que tu as reçu à la disque le prix d'interprète féminine de l'année. Mm-hmm. C'est la première fois qu'une instrumentiste reçoit ça. D'habitude, c'est des voix.
Ouais.
Des grosses voix.
Là,
c'est un album tout doux.
Ouais, ben oui, ben, je pense que ça montre qu'on n'a pas besoin de parler fort, ni de chanter, parce que je veux dire, l'interprétation musicale, il n'y a aucune raison que ce soit juste du chant. Je veux dire, tous les musiciens sont des interprètes.
Ouais.
Le côté interprète, dans mon cas, c'est la touche, c'est la sensibilité que je vais mettre dans la musique, c'est la façon dont je raconte la musique. T'sais. Fait que je suis vraiment tout très, très touchée d'avoir été une des premières à faire ce pas-là pour les musiciens aussi, les instrumentistes.
Mais cet album-là, contre toute attente, et ce n'est que mathématique ce que je dis là, c'est que les disques, la musique, les albums instrumentaux, c'est pas des gros vendeurs d'habitude. Mm-hmm. Or, celui-là est devenu un des plus grands, sinon le plus grand vendeur de la dernière année au Québec, en copie physique. Et en écoute aussi.
Ouais.
En streaming, là, on est rendu à des millions d'écoutes.
Ouais, c'est ça. Le streaming contribue aussi à la façon dont on compte les ventes d'albums aujourd'hui. Mais oui, contre toute attente, effectivement, nous, on pensait sortir un album, somme toute, assez niché, là. C'est quelque chose de vraiment spécifique, qui allait peut-être se vendre à 3000 copies, puis on aurait été contents. Tu sais, on vend plus de disques en général, tu sais.
Même des immenses productions avec des studios remplis de musiciens.
Exactement. Oui, des albums qui coûtent une fortune à produire, on peut en vendre. On est content quand on en vend 3000, 4000 en début, comme ça, on est content. Fait que là, nous, on est rendu à, je sais pas, 100 000, là. C'est complètement inespéré, là.
Mais est-ce que Alexandra Strelitzky a été prise de court par ce succès-là? Tu peux pas le prévoir, mais là, parce que là, c'est du vertige, le rendu là.
Non, c'est sûr. J'ai pas été prise de court dans la mesure où je le savais à cause de Pianoscope, qui est mon premier album, que les gens répondaient à la musique de manière magique. Parce que je faisais rien avec cet album-là. C'était ma mère qui envoyait des copies par la poste. Mais on en vendait tout le temps. On en vendait, tu sais, 5-6 par semaine en faisant rien du tout. Fait que je me disais, il y a quand même anguille sous roche que si je décide de mettre beaucoup d'énergie là-dedans, ça se peut que ça fasse quelque chose. Puis j'ai attendu très, très longtemps. Je travaillais en studio, puis je voulais pas, j'avais peur de le faire, honnêtement. Puis que j'ai décidé de me lancer. Fait que j'étais un peu prête à ce que ça réponde. J'étais pas prête à ce que ça réponde comme ça. J'étais pas prête à gagner des prix, à faire de la tournée internationale en une seconde. Je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur.
Les spectacles s'ajoutent. Bon, évidemment, cette année, les spectacles ont été suspendus, sauf qu'ils vont revenir. Ouais. Il y en a toute une liste, là. Je regardais ça.
C'est ça. Moi, j'ai été quand même assez chanceuse parce que j'étais rendue à mes supplémentaires. Fait que c'était déjà une belle tournée qu'on a faite. On était rendu là, dans le gravy de revenir dans des grandes salles où est-ce que ça avait bien fonctionné. Puis ça a été interrompu, évidemment. Fait qu'on attend de voir. On est tous un peu en suspens, là, dans le monde.
Puis on rappelle que, au moment où on fait cette entrevue-là, là, c'était à la fin du mois de novembre. C'est pas en direct, OK? Ça fait qu'effectivement, on n'a pas encore. On a des dates de prévues, mais bon, en tout cas, on va aller sur ton site pour savoir quand et où tu seras.
Exact, on est toujours bien vigilant de le mettre à jour.
Mais tu seras au Québec et ailleurs aussi.
Oui, alors ailleurs, ça reste à voir. J'avais une tournée aux États-Unis, j'avais une belle tournée aux États-Unis prévue, j'avais une tournée en Europe. Ça, je pense que ça a sauté. Je pense pas qu'on va le rattraper, ça, parce que quand on fait du développement international, ça coûte très cher.
Oui.
Puis si on n'a pas les salles au Québec pour venir balancer un peu ça, ça devient que c'est trop cher, en fait.
Okay.
C'est pas valable du tout. Ça.
Mais cette musique-là dépasse les frontières, c'est pas en salle, au moins c'est par le disque. La musique instrumentale, ça de base, c'est qu'elle est polyglotte. Hein?
Absolument.
Elle peut se ramasser partout. André Gagnon, dans le temps, avait un gros succès au Japon.
Au Japon, hein, ou en Corée, oui. Oui, oui, André, il a eu une carrière énorme en Asie.
Alors, en Asie, il était considéré comme un demi-dieu.
Oui, oui, oui. Mais les Japonais aiment beaucoup le piano solo, apparemment. Moi, je suis pas allé en Asie encore, fait que c'est pas du tout un marché que je connais. J'ai même jamais mis les pieds en Asie de ma vie.
Ça fait une place à explorer.
Oui, c'est la place, c'est la prochaine place qu'on va explorer, en fait. Ouais.
Alexandra, c'est un album qui a été écrit dans des circonstances, t'en as souvent parlé. Bon, tu sais, des moments un petit peu de tristesse, puis même de dépression.
Oui, dépression.
De voir qu'un album qui s'écrit au moment où les murs se referment sur soi, alors que c'est probablement la plus grande fenêtre qui s'est ouverte vers les autres.
Oui.
C'est un beau paradoxe.
Oui, c'est un beau paradoxe. Puis je l'ai pas écrit en plein creux de ma dépression. J'aurais pas été capable, honnêtement.
Non.
En dépression totale, on n'est pas fonctionnel. Et puis c'est pas. Je veux pas envoyer le message non plus que moi j'ai fait un album dans une dépression parce que ça n'a pas été le cas. J'ai attendu de m'en sortir. Je voulais pas faire un album triste. Je voulais que ça soit comme porteur de cette expérience-là, mais que ça soit après. C'est pour aller plus dans la lumière, tu sais, puis dans l'espoir. Mais ce que ça m'a fait réaliser, c'est qu'on se reconnaît dans ces zones-là de notre humanité. Tout le monde vit des moments d'obscurité. Oui. Tout le monde vit des moments de transition inconfortable, des séparations, des burn-out, des changements de job, puis en sortant cet album-là super intime, je me suis rendu compte qu'il résonnait dans l'universel. Puis moi, ça me donne espoir en l'humanité un peu, ça.
Ah oui.
Ben oui, de voir qu'on vibre tous, qu'on se ressemble, en fait.
Mais t'aurais pu te sentir dépossédé aussi.
C'est sûr que c'est visible. C'est sûr que c'est voici mes tripes sur un CD, puis tout le monde les voit. Puis moi, à la base, je le suis moins maintenant, mais j'étais quand même quelqu'un de très pas réservé, parce que je suis quand même un peu bobli dans ma personnalité de tous les jours, mais j'aime pas forcément être vu dans mon intimité, tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps à monter sur scène avec un projet comme ça, parce que quand je suis sur scène, je suis exposé pendant une heure et demie, je suis seul, puis je livre cette zone de vulnérabilité là devant les gens. Puis aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est mon métier, c'est la proposition artistique que je développe, tu sais.
Ouais, mais parlons-en du spectacle. Il y a deux manières d'aborder le spectacle pour une interprète, soit qu'on se place en démonstration ou on se met en mode partage.
Oui.
Puis j'ai comme l'impression que de ton côté, Alexandra Strelitzky, c'est plutôt le mode partage qui embarque.
Oui, c'est sûr que principalement c'est le mode partage. C'est le partage qui me drive et qui me garde en mouvement dans ce métier-là. C'est l'idée de partager cette musique-là. Ceci dit, quand on est sur une scène, on est en représentation. Que même si tu fais la musique la plus minimaliste, il y a un côté où il faut aller chercher, il faut aller extrapoler, même si c'est en détail, tu sais.
Ouais.
J'ai quand même ce souci-là, parce qu'une scène, c'est une scène, tu sais, puis il y a quelque chose à respecter là-dedans.
Et les gens qui vont au spectacle, toi aussi, tu as la chance de rejoindre un public qui est très large.
Oui, oh, oui, absolument. Je vois de toutes sortes de gens, des petits, des enfants. Vraiment, je suis fascinée de voir l'espèce de pool de diversité qu'il y a dans mes salles.
Ouais. Mais justement, il y avait la réceptionniste de la station tantôt, quand je lui ai dit qu'on t'attendait, elle dit « Ah, la musique qu'on a écoutée avec les enfants pendant la pandémie. »
C'est ça, oui.
S'il y a quand même là un partage, tu sais, c'est des enfants très jeunes.
Oui, et puis les petits, ça me touche aussi de voir, il y en a qui demandent mon album à Noël, tu sais, des petits garçons, tu sais, c'est juste beau. Il y a même des gens qui me disent « ça calme mon chat », tu sais.
Ça sert à quelque chose, la musique, finalement.
Ben, c'est sûr que ça sert à quelque chose, la musique. L'art est essentiel. T'sais.
Après l'année qu'on vient de traverser, ceux et celles qui avaient des doutes sur l'efficacité des arts et de la musique en particulier, On est prêt à en discuter pendant des heures.
Ben, c'est sûr.
Il n'y a plus de doute là-dessus.
C'est sûr que moi, j'ai pas de doute là-dessus parce que je le vis dans mon quotidien. J'ai des témoignages de gens dont les parents viennent de mourir, qui ont traversé cette épreuve-là avec ma musique. Si ça, c'est pas essentiel, je sais pas ce que c'est, mais moi, je le vis tous les jours. Fait que je comprends aussi qu'il y a quelqu'un qui le voit juste d'un point de vue extérieur, qui voit les artistes comme des gens à la télé. Mais la télé, c'est pas ce qu'on fait, c'est juste une représentation télévisuelle de qui les artistes sont, mais en arrière le travail, je pense qu'en somme toute on le connaît peu.
Ouais.
Parce que quand tu le vis tous les jours comme ça, comme moi, avec des gens que je rencontre, des messages, puis des messages excessivement touchants, je peux juste me dire ok, peut-être que ça sert un peu à quelque chose. C'est en toute humilité, parce que oui, dans un moment de crise de survie, non, c'est pas jouer du piano. Tu vas faire, c'est mettre un toit sur ta tête, puis te nourrir, puis protéger ta famille. T'sais. Mais dans des moments d'anxiété où la santé mentale, on le sait en ce moment, prend des ampleurs.
C'est fragile.
C'est très fragile. On est au mois de novembre, c'est l'hiver, on est en pandémie, confiné. Il y a des gens qui sont dans l'insécurité de leur travail. Donc, oui, c'est important.
Toutes les contributions seront les bienvenues.
Exactement, c'est ça.
Par la fenêtre de Théo, c'est qui Théo?
Ah, Théo, c'est mon beau-fils, c'est mon ex-beau-fils en fait.
Okay.
J'étais dans une union avant, je me suis séparée, okay. On avait un petit garçon.
Par la fenêtre de Théo, on voit plein de choses.
Eh bien, on voit plein de choses à travers ses yeux. C'est une pièce que j'ai écrite en regardant grandir, en regardant apprenant à marcher, en tombant, en se relevant. Puis en comment moi, je découvrais c'était quoi un humain qui évolue puis qui commence à faire des observations dans ses émotions, dans sa sensibilité. Fait que c'est ça.
C'est une pièce superbe de l'album Inscape d'Alexandra Strelitzky. On va l'écouter. Par la fenêtre de Théo. Musique d'Alexandra Strelitzky par la fenêtre de Théo, tirée de l'album Inscape, ton deuxième album. Mm-hmm. Le premier était sorti en 2010.
Début 2010, je pense.
Est-ce que le succès de Inscape est venu donner une relance pour Pianoscope?
Ah oui, absolument.
Forcément.
Bon, et Pianoscope, il va se rendre à disque d'or tout seul, comme un grand. cet album-là, il cesse de me fasciner
comme
depuis qu'il est sorti.
Mais après un long détour.
10 ans. Mais il a fait son chemin tout seul. Des partitions qui se vendent. Cette musique-là, elle a circulé bien au-delà de moi et des efforts de mon équipe.
Tu as commencé à jouer au piano, t'avais quel âge?
J'avais 6 ans.
T'avais 6 ans.
Ouais.
Par obligation ou par choix?
Non, pas du tout. J'ai demandé à jouer d'un instrument. Je me souviens écouter la musique, puis Ce qui me venait, c'était de la musique classique, tu sais, dans le char. Mon père écoutait ça, puis j'étais comme, hey, je peux deviner ce qui s'en vient.
Ah oui?
J'arrivais à... Dans le fond, j'avais une oreille pour la logique musicale, puis j'ai demandé de jouer d'un instrument, puis mes parents m'ont mis au piano parce qu'ils étaient amis avec François Dompierre, le compositeur.
Ouais.
Puis François avait dit, ben moi, je vous le conseille le piano parce que c'est il y a tout un orchestre dans un piano. Fait qu'après, si elle veut aller dans les aigus, si elle veut devenir flûtiste, si elle veut. Ben, moi, je suis restée pianiste. Puis je me suis développée comme humain avec ça.
Parce qu'on entend souvent des histoires un peu tristes à propos des enfants qui doivent apprendre le piano, puis que c'est obligatoire, puis quasiment que les tapes, c'est
doux. Non, c'est sûr. En même temps, je pense que même quand tu l'apprends et que ça te plaît, c'est ma sœur, par exemple, elle jouait du piano, mais elle aimait pas du tout ça. Je pense quand même que c'est bon. Je pense que la musique pour les enfants, c'est super formateur. Tu sais, ça vient, tu sais, faut que tu joues ta main droite, fais ça, ta main gauche, fais ça, ton pied, fais ça, ton émotion doit faire ça, faut que tu t'en souviennes par cœur. Mm-hmm. C'est super bon pour ton cerveau, pour ton développement, tu sais.
Mais à l'école, est-ce que t'avais, à l'école normale et régulière, est-ce que t'avais pas mal de facilité ou tu canalisais pas mal tes efforts sur l'instrument?
Non, j'étais assez bonne à l'école. Là. Mes amis m'haïssaient parce que j'avais pas à réviser beaucoup. Puis j'avais vraiment des bonnes notes. Puis ça allait, c'était fatigant.
T'es de ce genre-là, toi.
Je suis de ce genre-là qui sait qu'il y a le moindre effort, mais que ça fonctionnait. Mais pas dans toutes les matières. T'sais, j'étais vraiment pas du tout bonne en maths, en physique, tout plus le côté scientifique. Ça. Mais j'étais bonne en philo, en lettres.
Je dois te dire que généralement, là, les invités qui se présentent ici, les maths, la physique.
C'est pas ça qui les a amenés à une carrière d'artiste.
Sébastien Delorme nous a dit exactement
la même chose. Ça m'étonne pas.
La physique, la chimie puis les maths.
C'est ça. Ben, bon. Ça ressemble à ça dans mon cas aussi.
Bienvenue dans le groupe.
Bienvenue dans le groupe, dans la famille.
Il y a quelque chose, je lisais les notes, le piano sur lequel tu joues, c'est le piano de ton enfance.
Oui.
Et c'est avec cet instrument-là que tu as enregistré
Inscape.
Oui,
en partie. Il y a trois pianos sur Inscape, mais principalement, c'est le piano Lodz que j'ai depuis que j'ai 6 ans, qu'on a acheté à Paris, parce qu'on habitait en France à ce moment-là. Puis on l'a bougé, on l'a déménagé. C'est un piano qui aujourd'hui vaut 1000$. Là. C'est pas un grand piano, là. C'est juste que c'est le piano que j'ai depuis toujours. Puis j'avais envie d'enregistrer Inscape dessus pour avoir la relation la plus immédiate entre la composition, l'interprétation et ce que les gens vont entendre. Parce que c'est un album très intime, très intérieur, tu sais, fait que je voulais qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible, d'où le choix du piano solo aussi, tu sais, je pourrais mettre des cordes, je pourrais faire d'autres choses, mais je trouve que le piano solo, c'est hormis
tes parents, ta sœur, c'est la relation la plus longue et la plus solide que tu as entretenue dans ta vie, c'est avec ton piano.
Ah ouais, c'est sûr. Puis
mais l'instrument comme tel.
Avec l'instrument comme tel, puis quand je me suis séparée, j'ai déménagé mon piano dans une maison de campagne, puis dans un appart, puis il a bougé genre 6 fois, je suis rendue chummy avec les déménageurs de piano. Là. Ils sont comme, où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui, mademoiselle? Mais là, il est de retour chez moi, puis oui, c'est une relation.
Mais le piano a supporté tous ces déménagements-là.
Ouais, c'est sûr que j'ai un accordeur de piano, un technicien qui s'en occupe. Il faut, tu sais, tous les...
Non, mais il y a des pianos qui réagissent moins bien au déménagement.
Non, puis c'est sûr que c'est pas bon de déménager autant de fois un piano, mais il faut qu'il me suive.
Est-ce que je peux me permettre une question ésotérique, Alexandra? Est-ce que ton piano a une âme? Est-ce que les instruments ont une âme?
Je pense que oui. Je pense que ils ont une âme... C'est sûr que chaque instrument, un piano vient du bois duquel il est fait, de la mécanisme, de la personne qui a fait les marteaux, la personne qui a mis de l'artisanat dans la fabrication de l'instrument. Ensuite, il y a l'accordeur qui le fait résonner d'une certaine façon. Puis il y a le pianiste qui va jouer le ou les pianistes qui ont joué sur un instrument. Puis c'est sûr, moi, je joue très doucement. Tu sais, fait que tout ça, ça s'imprègne dans la mécanique. Donc après, est-ce que ça crée une âme, moi? Je le vis comme ça parce que quand je joue un show à Saint-Jean-sur-Richelieu ou un show à Joliette, j'ai pas le même piano. Tu sais.
Ouais.
Puis chaque piano amène autre chose. Même si c'est un Yamaha 9 pieds dans les deux salles, c'est pas le même instrument.
Mais comment vous faites, les pianistes, pour changer d'instrument comme ça de salle en salle et en vous adaptant, en prenant pas l'instrument à grippe en arrivant dans la salle en disant « Je peux pas croire que je vais jouer là-dessus ce soir pendant 1h30. »
Ça arrive qu'il y a une relation moins le fun avec le piano, où ton show, tu le passes à t'adapter à ton instrument plus qu'à te laisser aller. C'est dommage, c'est des shows qui sont plus challengeants. Là, je le comparerais à faire un match de tennis sur un court qui fit pas avec ton jeu.
Parce qu'un guitariste se promène avec sa guitare. Quelqu'un qui joue du sax sur son instrument, mais vous autres, les pianistes,
Ouais, ça fait partie de notre travail de s'adapter. Tu sais, il y a des grands pianistes classiques. Je lisais un article là-dessus justement l'autre jour qui, il y en a qui veulent pas s'adapter, il y en a qui voyagent avec leur représentant de Steinway, le truc. Tu sais, moi, moi c'est pas ça. Moi, j'aime ça. J'aime ce défi-là et je trouve que ça crée de la magie et ça crée des spectacles uniques parce que c'est jamais pareil. Parce qu'un piano, exemple, qui joue super fort sans que t'aies à le toucher beaucoup, ça va créer une espèce d'intensité que t'aurais pas eu sur un autre piano. Puis ça crée des moments, ça fait des spectacles en fait qui sont uniques, tu sais.
Mais j'ai toujours été étonné par ça, de voir la capacité d'adaptation que vous aviez pour des instruments qui n'étaient pas les vôtres. Et quand je passe à ton piano... C'est drôle que j'insiste là-dessus, là. Mais c'est aussi un instrument qui va t'accompagner encore longtemps, longtemps, longtemps. Alexandra Strelitzky et son piano, ça va ensemble. Et il va t'accompagner tout le temps.
Ouais, et puis là, tu vois, là, je me dis, pour mon prochain album, est-ce que je trompe mon piano et que j'en fais venir un autre? Et c'est sûr que mon piano sera toujours là et il y a des pièces que je vais avoir à produire et à composer sur lui, mais... En ce moment, je me promène entre l'Europe, mais pas en ce moment parce que c'est la pandémie, puis je l'ai moins fait, mais j'ai aussi une maison aux Pays-Bas et j'ai un autre piano là-bas.
Ah oui?
Et ça amène d'autres choses, tu sais. Fait que, puis c'est bien. À un moment donné, il faut varier aussi comme artiste. C'est important de rester dans la découverte, puis dans l'inspiration, puis dans la nouveauté, tu sais. Fait que si, je veux pas rester accroché à mon piano.
C'est pas parce qu'on a un meilleur ami qu'on peut pas avoir d'autres amis.
C'est ça, exactement. C'est pas parce qu'on a une blonde qu'on peut pas avoir d'autres blondes, tu sais.
Non, non, effectivement, mais
c'est pas vrai, ça. Ouais, c'était ma joke.
Ouais, non, mais il y a un âge pour ça aussi. Ça arrivera bien à un moment donné. Tu parlais d'une maison aux Pays-Bas.
Mm-hmm.
Il y a longtemps que tu es aussi établi là-bas?
Non, ça fait à peu près un an. Puis ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé à passer plus de temps là-bas, puis je me suis rendu compte que j'avais toute une lignée d'ancêtres du nom de Strelitzky, qui était musicien, qui habitait à Amsterdam, à Rotterdam, à La Haye.
Ah oui?
Oui. Fait que, en fin de compte, c'est drôle, j'ai été attirée par cet endroit-là. Puis la vie m'a amenée à passer plus de temps là-bas. Puis après ça, je me suis rendu compte que... Puis je pensais que moi, j'étais la seule musicienne officielle de ma famille, là, dans le sens que ma famille est plus en communication, en lettres, en journalisme, en pub. Mais en fin de compte, non, là, de ce côté-là, tout le monde, les femmes, les hommes, étaient tous musiciens, chefs d'orchestre, violonistes. C'est vraiment une histoire qui m'a fascinée.
Mais ça, on découvre ça comment? Par accident?
Ben, c'est mon frère avait fait des recherches, puis en étant là-bas, j'ai dit, hey, Mathieu, on avait pas des ancêtres là-bas, nous? Puis il m'a dit, ben oui, check ça. Puis il m'a envoyé de l'information, puis là, j'ai fait mes propres recherches, puis j'avais comme pas catché que c'était ça, mais mon frère le savait, lui.
Ton frère le savait?
Ben oui.
Des secrets de famille.
T'es au courant, lui. Il m'a pas dit.
On sait bien, lui.
Lui.
Parce qu'on parle souvent de ta sœur, Léa.
Mais oui.
On parle souvent de ton père aussi, qui a fait carrière dans
les... Et aussi ma mère et mon frère.
Bon, c'est ça. Mais finalement, ça fait pas mal de monde bien connu, ça.
Oui, ça fait une famille visible, disons.
Mais tu as passé un bout du confinement aux Pays-Bas.
Oui, deux fois.
Fait que c'est ça. Ouais. T'es revenu depuis...
Je suis revenu en fait la première fois. En fait, en mars, j'étais là-bas. Je suis resté trois mois confiné là-bas. Et ensuite, je suis revenu pour faire les fêtes de la Saint-Jean. C'était ça le gros truc.
Mm-hmm.
Fait que je suis revenu pour la Saint-Jean, faire deux, trois autres affaires. Puis après, je suis resté l'été, puis je suis reparti un peu. Fait que j'ai vraiment fait la première et la deuxième vague en Europe, dans le fond.
Mais là, je suis content de pouvoir compter sur ta présence en plein temps des fêtes comme ça. C'est parfait, parfait, parfait.
Non, mais là, je reste ici. Là.
Bon, OK, ben, c'est ce que j'allais te dire. Bouge pas, parce que dans deux minutes, on continue.
Parfait.
Alexandra Strelitzky, aujourd'hui, entre nous, on se retrouve dans quelques minutes.